c'est la ville entière où nous expérimentons ce sentiment de familière étrangeté, où nous ne parvenons pas à nous souvenir ce qui, encore hier, était le décor quotidien. Peut-être que nous expérimentons toutes et tous ce sentiment étrange de ne pas réussir à se rappeler la forme précédente d'une rue, d'une place, d'un quartier.
Ouais, j'aimerais bien que tu développes un peu cette idée là autour de ce sentiment de familiarité perdu dans la ville qui nous arrive à tous quand les rues, les immeubles changent, disparaissent. Et pourquoi est-ce que tu penses que cela a un impact quasi neurologique en fait sur notre mémoire collective ?
Si on peut pas s'inscrire dans une ville, tu vois, si on peut pas dire là c'est le banc où quand j'étais petit je faisais ça, ou c'est à cet endroit où on faisait ensemble des choses, tu vois, c'est là où on se retrouve après le marché, machin, etc. Ou c'est à cet endroit qu'on met une table, c'est à cet endroit qu'on a mis des banderoles, c'est à cet endroit, etc. Ben, on n'a pas d'endroit, quoi. On n'a pas de support. On se dissout, en fait. On se dissout dans le quotidien, dans un rythme qui nous est imposé. On n'a pas d'accession à une permanence. Une permanence dans un endroit. C'est une question d'usage, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une question de propriété, dans le sens, même si on a tendance à vouloir la régler par la propriété, c'est aussi pour ça qu'on est, nombreux et nombreuses à penser que si on était propriétaire de notre maison, eh ben, on aurait un endroit, et du coup, on pourrait bien vieillir, on pourrait bien faire, etc., et d'avoir son endroit, sa place au soleil, etc., tout ça, c'est important, quoi. Et collectivement, on le voit. Hein, je prends un exemple, la place Arnaud-Bernard. La place Arnaud-Bernard, moi, depuis que je suis à Toulouse, depuis 1995, ils l'ont refaite 5 fois. Et à chaque fois, c'est des travaux où tu ne peux pas l'utiliser. Et à chaque fois, c'est on veut coller un truc qui n'était pas avant. On intervient sur ta modalité d'utiliser la place. Quand elle n'est pas en travaux, on va y intervenir avec des caméras, avec des interdictions, avec la présence. Ça fait aujourd'hui, maintenant, je vais dire une connerie, peut-être ça fait 10 ans, je crois, hein, qu'il y a un commissariat quasiment permanent sur cette place. C'est quand même... ils nous ont enlevé les bancs et après, ils nous ont mis les flics. C'est compliqué pour y zoner sur cette place. Et c'est vrai, moi, au bout d'un moment, cette place qui était le centre, sans jamais avoir habité le quartier, c'était le centre de ma sociabilité à plein d'endroits. Tu vois, c'est les endroits où, tac, il y avait des cafés, des machins, des trucs où j'allais. Bah, de moins en moins, j'y vais de moins en moins, j'y passe, mais j'y vais de moins en moins. Et du coup, c'est où ? C'est où que je me retrouve, en fait ? C'est où ma place ? C'est où mon coin ? À moi, avec d'autres, c'est un peu galère, quoi. Et puis, t'as des endroits comme ça, et puis tu t'en fais chasser par l'aménagement, c'est aussi des ateliers, c'est aussi des choses comme ça, quoi. Je pense que ça a toujours à voir avec des pratiques. C'est l'impossibilité d'installer des pratiques d'appropriation en tant qu'usage, dans l'espace et dans le temps.
Ouais, voilà. Moi je le vois vraiment comme quelque chose d'idéologique, parce que la plupart du temps, les pratiques là dont on est en train de parler, c'est des pratiques justement un peu d'organisation, on va dire contre la ville, quoi, pour faire vite. Donc la ville, elle anticipe, elle se défend, progressivement elle élimine, elle met à distance, elle casse les dynamiques de pratiques volontairement. Il y a des travaux partout, comme une coupure comme ça, tu vois, une suspension. Si tu te recrées des habitudes avec une nouvelle forme de ville, en vrai, l'image du passé disparaît, quoi. Il y a encore, bon, si on reste sur Toulouse, quelques foyers de nouvelles formes de réorganisation, mais c'est le temps, en fait, que les travaux arrivent. J'ai l'impression que c'est dur de réoccuper, de réinvestir une ville qui a été transformée. Est-ce que tu penses qu'Arnaud Bernard peut redevenir comme elle était ? Donc, je parle vraiment d'un point de vue quartier populaire, etc. Tu vois.
Arnaud Bernard, comme quartier populaire, parce que c'est un quartier populaire aussi un peu comme Saint-Georges, depuis longtemps, ils veulent s'en débarrasser depuis 1920. Tu vois. Au final, on peut aussi dire qu'ils vont de défaite en défaite. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais complètement à maîtriser. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un truc. Tu vas du côté de la médiathèque, par exemple. La médiathèque, Marengo, c'est un autre faubourg populaire. Ils ont rasé cet endroit, ils ont enlevé tout, etc. Bah, qu'est-ce qu'il y a la nuit à cet endroit ? En fait, cette place, la place dite de la Légion d'honneur, elle est assez moche, machin, etc. Mais en fait, elle vit pas mal. Il y a pas mal de groupes qui zonent là, etc. Ça arrive jamais complètement à arracher le truc. Mais ça arrive à enlever la temporalité. C'est-à-dire que vraiment, les gens s'approprient un endroit. Et du coup, puissent former une collectivité, une communauté autour de ça, une association qui puisse un peu durer et qui puisse faire pièce à la ville. Hey Mais par contre, ça ne l'arrache pas complètement toujours. Ouais. La mauvaise herbe, elle repousse toujours entre les pavés. Un des exemples flagrants dans cette ville, il y en a deux qui sont pour moi très très forts, c'est Alsace-Lorraine. C'est le fait d'avoir enlevé Alsace-Lorraine à la manifestation. On l'a vu avec les Gilets jaunes, ou avec Sivens, etc. Bon, bah, ça marche pas toujours. L'autre exemple assez flagrant, c'est enlever le marché Saint-Cernin. Ce qui est en plus assez horrible avec ce truc, c'est que c'est même pas forcément que des trucs contre la ville. Parce que le marché Saint-Cernin, les commerçants du marché Saint-Cernin, ils étaient pas contre la ville. C'est pas des communistes anarchistes qui veulent, tu vois. Non, c'était des commerçants. Mais c'était pas des commerçants comme il fallait à l'endroit où il fallait. Donc on les a enlevés, on a enlevé tout un tas de trucs, on a vraiment affaibli le quartier Arnaud-Bernard à partir de là, en 2016. Mais maintenant, si on passe place Saint-Cernin, y a plein de gens qui occupent, il y a ce terrain de boule, etc. Alors c'est peut-être d'autres gens, on peut dire, etc. Mais il peut se passer là des trucs, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai un autre exemple, c'est au Mirail, ils ont installé des colocs étudiantes pour participer un petit peu à la gentrification en leur demandant de jouer un rôle dans les associations, etc. Bon, bah, y a des étudiants et étudiantes qui sont arrivés là pour participer à la transformation du quartier dans une politique publique comme ça. Et ben, ils ont été cheville ouvrière aussi des luttes actuelles sur le Mirail, tu vois. Bon, bah, ça marche pas toujours. Et même, ça marche à la fois trop. Ça marche trop parce que aussi on n'y arrive pas. Mais ils n'y arrivent pas non plus. C'est-à-dire, c'est pas 1-0 balle au centre parce que on est plutôt à 6-2, quoi. Ouais. Mais il faut aussi regarder ça dans le sens où, par exemple, ils vont construire un quartier d'affaires autour de la gare. Ils sont bien partis pour. C'est pas pour ça que dans ce quartier d'affaires, il n'y aura pas des gens qui vivront. Parce que sinon, l'erreur, c'est de penser comme dans les grands ensembles. Dans les années 50, 60, on a dit ils vont construire des cages à lapins et puis il ne se passera rien dedans. Et bien, c'est pas vrai. Il se passe des choses dedans et on a cru qu'il ne se passait rien. Il y a plein de gens qui ont dit en fait c'est l'horreur comme forme, etc. Et en fait du coup on les a détruits dans le silence. Non, il se passe toujours des choses. Là où il y a des gens qui habitent, il y a une valeur qui se déroule, quoi.
Par contre, ces mauvaises herbes, comme tu dis, qui poussent à travers le pavé, maintenant dans cette transformation de la ville, elle est identifiable. Tu peux plus te dissimuler la place derrière Cabanis. Voilà, effectivement, il y a ça traîne, etc., etc. Mais tu vois les gens traîner maintenant. C'est ça le truc, tu les repères. Oui. Et je pense qu'effectivement, pour une forme d'autorité, c'est bien de voir les gens et de comprendre qu'ils sont pas du lieu, quoi.
L'urbanisme, il est foncièrement un acte de pouvoir sur la communauté sur laquelle il s'exerce. C'est-à-dire l'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'urbanisme, c'est que l'aménagement du territoire appliqué à la ville. Et le pire, c'est qu'en plus, il se prévaut comme ça de résoudre un problème. C'est-à-dire en permanence, si on regarde le projet métropolitain, en permanence, il s'agit de résoudre et de prévoir l'avenir. C'est-à-dire, c'est le slogan de Moudin que maintenant, c'est protéger l'avenir. Je l'adore, ce slogan.
Je suis candidat à l'élection municipale et je sollicite une nouvelle fois la confiance des Toulousains. Pourquoi ? Parce que notre monde est redevenu dangereux et que plus que jamais, nous devons travailler à la protection des Toulousains pour aujourd'hui et pour demain, à la consolidation de nos acquis, car les succès de Toulouse ne sont pas éternels, et à relever dès maintenant les défis de l'avenir. Je suis donc candidat pour protéger l'avenir de Toulouse, l'avenir des Toulousaines et des Toulousains.
Le passé Arnaud-Bernard, j'y reviens, ils nous ont installé un espèce de truc pour faire de l'ombre. Les villes qui sont à la fois génératrices de cette catastrophe écologique en cours se font croire qu'elles ont les solutions, qu'il y a des solutions en fait.
Protéger l'avenir.
Ouais, faites-nous confiance, on s'en occupe.
Pour protéger l'avenir de Toulouse, l'avenir des Toulousaines et des Toulousains.
Ben voilà, je ne sais plus qui disait ça, mais que construire des routes, c'est gouverner.
C'est pas que ça, malheureusement, mais le collectif, il existe par l'espace qu'il a produit, et en produisant un espace, et donc maîtriser la production de l'espace, la manière dont il s'organise, c'est maîtriser. C'est gouverner, effectivement. Mais aussi, à un moment, il faut retourner le truc. C'est-à-dire qu'il faut arriver à repolitiser ces affaires-là. repolitiser ces affaires-là, c'est-à-dire se dire à un moment, en fait, les manières où on habite, les manières dont on se déplace, les manières dont on vit à des endroits dont on peut se réunir, etc., c'est éminemment politique. La question de l'aménagement, c'est pas la résultante d'un rapport de force, c'est son expression même. C'est-à-dire c'est vraiment la réalité même du rapport de force. Et donc réinvestir beaucoup plus les enjeux urbains et spatiaux, parce que sinon on leur laisse la place. Et par exemple, c'est assez dingue comme les différents... on a une ville en travaux en permanence, une ville de grue, quoi. C'est quelque chose qui est arrivé quand même si ça a toujours été un peu le cas, ça s'intensifie. On est dans une ville nouvelle, hein, qui a été construite à 80% après les années 70. C'est pas un sujet. C'est un sujet pour les politiciens qui vont en permanence inaugurer des trucs, ouais, mais en termes... en termes politiques, contestataires, etc., voilà, c'est pas un sujet.
C'est vrai que ça bouscule une intranquillité. C'est, en écoutant le documentaire, moi, j'ai été frappé aussi par l'impuissance en fait, que subissent les habitants et habitantes. Leur demande de justice qui semble si inégale, disproportionnée face au pouvoir.
Et c'est vrai, en fait, on est en recul permanent, comme sur beaucoup de plans, malheureusement, mais... Moi, j'ai l'impression, alors c'est hyper personnel, je sais pas ce que dirait Ludo, et puis je sais pas ce que diraient les personnes qu'on a. C'est prendre acte de ces défaites, c'est déjà un peu rogner la défaite. C'est-à-dire dire à un moment, en fait, il se passe un truc, il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, par où ça passe, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des processus qui sont sur des années. Ça traîne. C'est hyper difficile de trouver une accroche, etc. Ils ont le temps, ils ont le luxe du temps, quoi. Je veux dire, le quartier Saint-Georges, ça a été 30 ans. Le Bas de Bonnefoy, ça a été... c'est 10 ans d'abandon. Ils ont le mensonge, ils ont tout, quoi. C'est vraiment un truc de... faut trouver des manières de politiser cette affaire. Faut trouver des moyens de retrouver de la prise. Il faut pas avoir peur de regarder en face nos défaites. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on perd ? Parce que même nos victoires, il y a une victoire qui est célèbre et importante ici à Toulouse, c'est une partie de la voie sur berge n'a pas été réalisée, c'est-à-dire une autoroute sur la Garonne qui devait passer au niveau de la Dorade et en gros faire de la Dorade et de Saint-Pierre un échangeur routier, quoi. Donc ça a été gagné par des gens qui ont lutté, qui se sont battus. Il y avait une émission ici à Canal Sud à l'époque, donc dans les années fin des années 70, début des années 80, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de parking sur la Dorade, un parking à silo. Il devait y avoir un immeuble parking, quoi, hein, 3 étages de parking à la Dorade. Bon, c'est gagné, et puis ça se fait gentrifier, et puis ça devient le centre qu'on connaît aujourd'hui. Donc à la fois c'est gagné, mais c'est perdu, mais c'est aussi gagné, quoi, et qu'aussi on voit pas plein de choses qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire, on ne voit pas tout ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'en plus, ils ne disent pas « Ah, non, on n'a pas fait ça », etc. C'est-à-dire qu'il faut regarder en face nos victoires, nos défaites, notre histoire urbaine, et regarder en face c'est l'espace dans lequel on vit pour essayer d'y prendre part et d'essayer aussi de former un... Parce que le problème, c'est que dès qu'on commence à parler de ça, il y a des urbanistes qui arrivent et qui nous disent qu'on va faire un urbanisme participatif et que ça sera mieux. Il suffit que les gens aient voix à la décision. En fait, non. Le problème, c'est la manière dont vous posez le problème, déjà. La manière dont les enjeux sont posés, la manière dont la relation à la propriété, etc., etc. Et là, je pense vraiment il y a quelque chose à faire à cet endroit-là, parce que on peut justement retrouver de la prise sur ce qu'on est collectivement.
Pour protéger l'avenir de Toulouse, l'avenir des Toulousaines et des Toulousains.
Les miennes ont des cernes, elles traînent en fumant à l'heure roule les barres fermes, vide leurs bouteilles, pissent sur mon sommeil. Vieille peau des caddies que presque rien n'est gay. Je leur dois mes plus fiers débuts d'ulcères et des colliers d'heures mortes à mon calendrier lunaire. Des insomnies belles comme des fonds de cratère, si tu préfères. Coléoptère à fleurs de nerf, elle rampe à bois, casse du verre au creux de mon crâne, dans un coin sans lumière. Poon, elle boue et tâche d'y prendre goût. Cuite et recuite à chaque nuit que Paris écrit, elles font le mur et courent seules dehors. Boulevard, avenue, rue, impasse des carnivores. Vadrouille sans but en attendant l'aurore. Leur solitude bavée dans le cul d'une ville qui dort. En vase clos, paradis des corbeaux, les matricules poussent comme une seconde peau. Me disent-elles coco en desserrant les crocs. La mine un peu défaite sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête, ce chien dans ma tête. La mine un peu défaite sur le pavé qui s'y prête. Je sors promener, faire pisser mon chien dans la tête.
Nous faisons le pari qu'en mettant en circulation ces témoignages, ils peuvent aider à faire l'histoire des exploités, des dominés, des marginalisés, et ainsi nous permettre de reprendre un peu de pouvoir sur la construction de nos villes.
Justement, ce qui est intéressant dans ce docu, c'est la construction sonore. Comment vous, vous l'avez travaillé, le son, pour restituer la puissance et la brutalité de la destruction?
Pour ça, on a été beaucoup aidés par les travaux qui sont brutales et qui font beaucoup de bruit. Hein. On a parlé de la poussière, mais c'est aussi le bruit, quoi, le bruit permanent. Cette avenue de Lyon, elle était sans cesse en bruit. On a essayé... là, il y a un gros travail de Ludo qui, en plus de participer à tout le reste, hein, à l'écriture, à la prise de son, bah, à tout l'ensemble, a fait aussi un gros travail sur le mixage, beaucoup plus que moi, et de chercher à rendre compte de ça, à que ça soit sensible, quoi, à donner envie que ça soit, qu'on ressente les choses, aussi de la musicalité et de jouer là-dessus sur la musicalité, quoi.
D'ailleurs, vous faites parler une machine. La machine devient un peu
une
narratrice
dans votre documentaire.
Si tu devais te mettre dans la tête d'une
si
machine,
les machines parlaient, qu'est-ce qu'elles diraient sur leur fonction?
Et penser de ce qu'elles sont en train de faire, quoi, à la ville, quoi, ces machines.
Ces machines, et notamment, bah, tu sais, je t'en parlais au début là, de cette prise de son où on a l'impression qu'elles respirent, quoi. Et on a eu envie d'un peu lui donner. Et du coup, on pensait à Frankenstein, tu vois, ce monstre construit par un savant. Dégueulasse et cruel, et qui se fait poursuivre par les villageois et les villageoises, et qui pourtant aurait pas envie de faire du mal, tu vois. Et on s'est dit que cette machine, elle pourrait ne pas avoir envie de faire du mal, mais elle pourrait aussi un peu nous mépriser dans notre manière d'être cannibale entre nous, et le fait que finalement elle est l'outil de la destruction, elle est l'outil d'un système dont la destruction fait partie de la régénération, quoi. Il faut détruire pour pouvoir construire, et ça fait partie du jeu, quoi. Donc tant pis pour les perdants, quoi. Et donc elle pourrait avoir un côté un peu comme ça, nous regarder avec mépris, peut-être nous regarder avec tendresse, parce qu'elle nous voit dans nos intérieurs, et elle voit les papiers peints, elle voit les choses, elle voit les gens qui regardent, etc. Et avec cette idée que cette machine, elle pourrait servir à autre chose, et qu'elle pourrait faire autre chose, et qu'elle est un peu maudite, quoi. Qu'elle aimerait bien servir à autre chose, tu vois, qu'elle aimerait bien partir et puis être utile, quoi, et de labourer un champ, ouais, de faire quelque chose d'utile, quoi, de démonter une tour, etc. Et qu'en même temps, elle était toujours la cible, elle était toujours la partie visible de l'iceberg, là où les encravatés et les gens de pouvoir et les banquiers et les banquières, etc., ben on les voit pas, quoi, on les voit jamais, ou les urbanistes, tu vois, qui sont... Et il y a ce moment où elle dit, il y a un congénère à elle qui a brûlé dans une rue d'à côté, ce qui est une histoire vraie. Alors on n'a rien contre le fait de brûler des machines. Ça nous refaisait penser à Frankenstein, ouais. Quoi. Moi, j'ai développé un peu une tendresse pour ces machines, pour cette puissance de la machine. Je pense que j'ai autant de tendresse pour la machine que j'ai de colère contre ceux et celles qui décident là où elle va faire du mal, quoi. Je crois qu'on a envie d'un truc, c'est que justement, qu'on s'en souvienne, que de faire pièce à l'oubli, quoi. De faire en sorte que ça passe pas tranquillement, que ça passe pas comme ça, quoi. Que les gens arrivent à faire en rentrer dans leur réflexion que il y a des pans de la ville qui disparaissent, et quand un pan de la ville disparaît, c'est des vies. C'est des vies qui sont sous les décombres. Il y a des gens qui habitent là, et ça marche pour des bidonvilles, ça marche pour plein d'endroits, quoi. Et que on peut ne pas avoir envie d'habiter quelque part. Il y a des gens qui y habitent, et ces gens, ils ont le droit d'habiter là où ils habitent, quoi. Et qu'il faut arrêter de décider pour la vie des gens. Mais bon, voilà, je commence à aller loin. Parce que je pense quand même qu'on a eu envie que la violence de l'aménagement autoritaire, elle soit visible et donner un peu de place à ces vies qui sont maltraitées, quoi. Et voilà, et là, il y a les travaux qui commencent, ils se mettent à construire. En fait, c'est pas fini. Ils peuvent encore s'arrêter. Ça pourrait devenir un parc, ça pourrait devenir plein de choses. Et à chaque phase, si on se rappelle de l'agression que ça a été, ben, on peut leur répondre, quoi.
Donc on se quitte avec Personne ne se souviendra de nous, un documentaire sonore d'Américo Mariani de Ludo Mepa. Merci d'être passé, à très bientôt.
Salut,
ciao. Bye.